Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur La Route Inconnue, votre magazine dédié à la poésie vivante, celle qui s'écrit, se publie et se lit aujourd'hui. Vous retrouverez en seconde partie d'émission les chroniques de nos amis Jacques Morin, Louis Dubot et Jean-Claude Touzeil. La Route Inconnue, je vous le rappelle, est réalisée en partenariat avec la revue Des Charges et je ne vous cache pas que nous en sommes plutôt fiers. Aujourd'hui, nous allons parler de Jack Kerouac et du haïku à l'occasion de la parution de son livre « Jack Kerouac et le haïku » publié aux éditions des Lisières. C'est une jeune maison dont nous aimons particulièrement le travail et les choix éditoriaux. Bertrand Agostini, bonjour.
Bonjour.
Alors, Jack Kerouac, c'est un auteur américain connu dans le monde entier pour son œuvre romanesque. « On the Road » a été traduit dans toutes les langues et réédité récemment par Gallimard dans sa pureté originale, donc le fameux rouleau que vénèrent tous les lecteurs de Kerouac. Mais en marge de l'œuvre romanesque de Kerouac, il y a aussi les poèmes de Mexico City Blues, les écrits de l'Éternité d'or, une sorte de sutra américain, et puis les haïkus que vous avez traduits, rassemblés et publiés il y a quelques années aux éditions de la Table Ronde. Bertrand Agostini, quelle place le haïku occupe-t-il dans l'œuvre de Kerouac et quelle place a-t-il tenu dans sa vie? Car le haïku est aussi, peut-être surtout, un art existentiel.
Alors, bon, en guise de préambule, effectivement, vous en avez déjà donné un avant-goût, mais j'aimerais redire effectivement que le grand public, au sens très large, évidemment, connaît de Kerouac la route, le jazz, notamment le bebop, qui était le mode de jazz de l'époque, dans les années 50, l'alcool, la drogue, le débordement sexuel, Jack Kerouac comme étant le père de la Beat Generation, et puis cet esprit de révolte, je préfère plutôt le mot de dissidence que de révolte, parce que de révolte, il n'y en a jamais réellement eu, en fait. Hein. En tout cas, de révolte intellectuelle, à ce moment-là. Hein. Et puis, redire aussi que, comme vous avez cité quelques œuvres, bon, il est quand même l'auteur d'une œuvre romanesque de 13 romans, si on peut appeler ça encore des romans, qui sont foncièrement autobiographiques, qui ont été écrits dans le désordre, et puis il est aussi l'auteur de plusieurs recueils de poésie, vous en avez cité quelques-uns, d'articles aussi, et d'essais, on l'oublie, même s'ils sont relativement courts, c'est tout de même important de le noter dans sa bibliographie. Ouais. Pour en revenir aux 13 ouvrages de sa légende, comme il l'appelait, la légende de Dulio, c'était le nom qu'il utilisait dans ses romans, il disait de cette légende, c'est la véritable histoire de ce que j'ai vu et comment je l'ai vu. Et alors il avait comme ambition finalement de faire un peu une légende de sa propre vie comme la recherche du temps perdu de Marcel Proust, qu'il admirait.
Oui.
Alors, maintenant, le haïku, il n'est pas venu tout seul, je dirais. Bon, d'abord, effectivement, il a toujours été assez intéressé par la poésie, notamment les grands visionnaires. Bien entendu, on peut citer Rimbaud, mais aussi le célèbre poète William Blake et bien d'autres, W.H. Auden aussi. Donc, il a toujours été intéressé par la poésie. Et le haïku, en fait, est venu s'inscrire dans le cadre de son étude personnelle du bouddhisme, qui commence, disons, en 1950 à peu près. Hein. À ce moment-là, comme c'est un grand lecteur, il s'enferme dans la bibliothèque de San José, et puis il y étudie tout ce qui lui tombe sous la main dans cette bibliothèque, et il veut parfaire son éducation bouddhique. Et après, il y a effectivement des rencontres, notamment en Californie, avec Gary Snyder, qui vont être très porteuses et qui vont lui apporter évidemment cet engouement pour le haïku. Donc ça s'inscrit vraiment dans le cadre de son étude du bouddhisme. Hein. Après, effectivement, dans sa quête spirituelle, parce que chez Kerouac, il y a une quête spirituelle qui est fondamentale, il y a des attentes, et notamment des attentes de spontanéité, de fraîcheur, de simplicité. Ensuite, bon, à travers le haïku, eh bien, il va aussi s'intéresser ou faire le rapprochement avec le zen, qui est résolument indissociable de cette pratique poétique, hein. Notamment pour ce qui concerne les éléments de surprise, de liberté, laisser venir les choses à soi, comme on dit, sans but, et finalement en opposition totale avec la tradition philosophique grecque qui est la nôtre, c'est-à-dire d'avoir toujours des objectifs, des attributs, des résultats. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de revenir à une espèce d'esprit originel, ce que les bouddhistes appellent notre véritable nature, qui ne spécule pas mentalement. Et ça, c'est presque une obsession chez lui. Ensuite, je dirais qu'il y a aussi son étude du taoïsme, qui évidemment est en marge du courant bouddhiste, qui est originaire de Chine. Et là, effectivement, il va tomber sur des aphorismes tels que parler rarement est conforme à la nature, ou bien celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas. Et là, ça va effectivement correspondre parfaitement à l'esprit du haïku qu'il va automatiquement vouloir utiliser personnellement. Ouais. Donc, il a fait, on peut dire qu'il a vraiment été le premier auteur occidental au XXe siècle à réellement populariser. Je ne dis pas qu'effectivement, auparavant, le haïku n'a pas eu ses petites lettres de noblesse, notamment en France dès 1903 ou 1904, hein, avec le philosophe Couchou. Mais c'était quand même assez parcellaire, alors que lui, il a réellement popularisé le haïku et puis mis au goût du jour le bouddhisme, notamment le bouddhisme mahayana par la voie du zen. D'abord aux États-Unis, bien sûr, sur la côte ouest, mais ensuite très rapidement, ça s'est propagé vers la côte est et puis en Europe notamment. Ouais. Et ce d'abord par ses romans. Hein. J'aurais pu citer bien sûr Les Clochards Célestes.
C'est un roman que je souhaitais revenir là-dessus, sur Les Clochards Célestes, parce que c'est un roman qui nous éclaire à la fois sur sa relation au bouddhisme et au haïku, mais aussi c'est un roman essentiel pour comprendre l'amitié entre Kerouac et Gary Snyder. Et on a quand même le sentiment que c'est Snyder qui initie Kerouac au zen et au haïku. Hein.
Absolument, absolument. Oui. Ah oui, vraiment, Gary Snyder a été comme une espèce de mentor. Évident, un mentor spirituel et un mentor poétique. Hein. Gary Snyder, il était étudiant à ce moment-là, il est plus jeune que Kerouac, il vit encore d'ailleurs hein, dans l'état de Washington, de l'Oregon, pardon, où il a une ferme. Lui-même avait toujours été en contact avec la nature, puisque ses parents étaient agriculteurs. Et il a fait des études en Californie, à l'université Davis, qui est quand même une grosse université californienne, où à l'époque où Kerouac l'a rencontré, il terminait à la fois une licence de lettres et une licence d'anthropologie. Et puis il était en train de traduire les poèmes de Han Shan, un ermite chinois, qui avait commis un certain nombre de poèmes, oui, pour ça des poèmes, et le recueil s'intitule « La montagne froide ». Ouais. Voilà. Et à partir de là, bien sûr, Snyder l'a initié aussi à la montagne, puisqu'il l'entraîne faire l'ascension du Matterhorn, qui est un des monts les plus élevés sur la côte ouest américaine. Et puis, bien sûr, au gré de leur marche, comme il le relate dans les Dharma Bums, dans les Clochards Célestes, il compose des haïkus.
C'est un passage magnifique, d'ailleurs, du livre. Hein, l'ascension du Matterhorn, c'est un des morceaux de bravoure du roman.
Oui, absolument, absolument. Oui.
Alors, la vie de Kerouac, dont témoigne sa littérature, et vous l'avez dit tout à l'heure, hein, marquée par l'errance, le voyage sans but, mais ce qu'il rapproche finalement des maîtres du haïku, Basho, Issa, et plus tard Santoka, il a dû trouver réellement des frères, là.
Ah oui, absolument, absolument. C'est clair qu'il a lu Issa, Basho, Shiki, Busson, qui sont les quatre tenants du haïku classique, hein, bien entendu, mais il en avait lu d'autres, très certainement. Hein. Oui. Oui, effectivement, oui. Et puis, bon, je pense qu'il avait aussi lu, non pas des biographies de Basho, je pense pas que ça existait à l'époque, mais en tout cas, par le biais de d'essais sur le haïku, qu'on pouvait trouver sur le marché à l'époque, il avait lu sûrement quelques courts éléments de biographie des grands haïjin japonais. Et notamment, il avait dû remarquer qu'effectivement, il y avait la notion de pèlerin, la notion de pèlerinage, de pérégrination, d'errance, voire qui était associée étroitement à la vie de ces haïjin japonais. Ouais. Et évidemment, ça le confortait finalement dans son choix de vie, qui, effectivement, comme vous le savez, s'est transcrit dans Sur la route, mais également dans Les Clochards Célestes, beaucoup d'autres romans narrent les pérégrinations routières de Kerouac et de ses amis.
Ouais. Alors, Kerouac a mené donc une vie chaotique, on le dit, alcool, drogue, nomadisme amoureux, et puis des périodes de forte dépression. On a le sentiment que, par comparaison, ces périodes haïku ont été les plus heureuses de sa vie, non ?
Oui, alors ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment une bouffée d'air frais. Une bouffée d'air frais. Parce que Kerouac, c'est quand même un être torturé. Il faut savoir que il a vécu une enfance bon, heureuse, je pense. Hein. On pourrait pas dire qu'en surface, son enfance était malheureuse. Mais il a vécu dans une famille d'abord profondément catholique. Très imprégné du péché, de la souffrance, de la mort. Il avait des oncles, même son père aussi évoquait très souvent devant lui petit les idées de maladie ou de mort qui entachaient la famille Kerouac parce que les gens mouraient prématurément. Et puis ensuite, il a vécu aussi, il en a pris conscience à l'âge de 4 ans, face à un frère aîné qui s'appelait Gérard, de 9 ans, d'une grave maladie, et qui était vénéré par le reste de la famille. Donc il en a nourri un complexe d'infériorité, et puis ses parents l'ont poussé à ressembler à son frère, et ça, effectivement, ça a été très déstabilisant. Sans compter aussi le fait que lorsque son frère aîné est mort, sa mère a rejeté un amour plus qu'enveloppant envers le gamin que Kerouac était à l'époque.
Oui, il n'a jamais pu d'ailleurs renoncer au lien qui l'unissait à sa mère. Il a vécu finalement chez sa mère, hein, pratiquement une grande partie de sa vie. Hein.
Oui. Il y retournait toujours jusque dans les dernières années de sa vie, où il s'est marié avec un amour d'enfance, bon, par convenance en fait, je pense. Elle s'appelait Stella, sa femme était d'origine grecque. Donc il est retourné vivre, il a fini sa vie à Saint-Pétersbourg en Floride, et puis à Lowell, je pense. Et donc ils avaient acheté une maison, et effectivement, ben, il a demandé à sa mère de venir vivre à demeure. Ouais. Donc effectivement, il est mort près de sa mère.
Je voudrais en revenir au fondement de votre livre. Je rappelle le titre, hein, Jack Kerouac et le haïku, itinéraire dans l'errance. Page 19, je lis, en proposant au public cet essai sur les haïkus de Kerouac, nous sommes animés d'une profonde conviction, les haïkus peuvent constituer l'amorce de redécouverte fondamentale. De quoi parlez-vous en l'occurrence ?
Eh bien, à l'heure actuelle, l'actualité est percluse de références aux dangers climatiques qui nous guettent. On nous répète qu'il faut devenir de plus en plus écologique. Donc, il faut forcément revenir à une perception de la nature. Que nous avons oublié en Occident en tout cas, et qui a causé de graves dégâts et qui a été grandissante au travers des différentes révolutions industrielles pour arriver à l'époque technologique moderne. Et donc bien entendu, le fait de revenir au haïku, c'est forcément revenir à des considérations très saine, liée à la nature, parce que c'est quand même un petit poème qui, à l'origine, est fait tout simplement pour percevoir notre lien fondamental à l'environnement. Et donc, du coup, le haïku ne doit ou ne devait, dans le haïku classique, que se préoccuper de considérations naturelles.
Ouais. Alors, Kerouac a adapté hein, le haïku à la langue américaine en lui donnant le nom de Pops. C'est quoi un Pops ?
Alors, un Pop, en fait, On va le distinguer du haïku classique, tout simplement, selon la définition de Kerouac, parce que on y injectait quelques petites réflexions philosophiques. Voilà. Or, effectivement, Kerouac, en connaisseur fin du haïku, il savait très bien que dans le haïku classique, il n'est pas question de philosophie, pas de métaphysique. Or, effectivement, dans ces pops, on peut tout à fait déceler quand même certaines considérations intellectuelles, oui, philosophiques au sens assez large, quoi, qui dépassent le cadre normal de ce genre poétique.
Oui. Oui, finalement, en l'occurrence, le haïku s'identifie parfaitement au zen. Je ne sais plus si je crois que c'est Dogen qui a dit le zen, c'est la vie ordinaire, c'est la vie quotidienne.
Hein. Ah oui, oui, bah, ouais. Absolument. Hein. C'est clair que dans la conception orientale, et bouddhiste bien sûr, l'univers est spirituel. Ouais. Et c'est seulement lorsqu'on est en contact avec la matière que on peut apprécier, on peut se rendre compte, réaliser à quel point évidemment cet univers contient en germe la spiritualité. Ouais. Donc pour lui, le haïku, c'est le moyen de transcrire le sacré inhérent à toute chose dans l'univers. Puis alors effectivement, il y a cette notion du commun, du vulgaire, du prosaïque, du simple, qui sont la raison d'être de cette pratique poétique. Dans le Tao, par exemple, on nous indique bien que c'est en diminuant que l'on augmente. Donc du coup, effectivement, quand tout à l'heure je disais que ça lui avait amené une bouffée d'air frais, et puis vous constatiez également que c'était sûrement une des périodes les plus heureuses de sa vie, ben effectivement, je pense que c'est parce que le haïku lui offrait une possibilité de diminuer plutôt que de à l'inverse de des romans écrits. Sans chapitre, sans ponctuation, pour prendre l'exemple de Sur la route, où effectivement, là, le verbe abonde et où les augmentations sont les bienvenues, ouais. Vous voyez.
Alors, donc, vous êtes le traducteur officiel en français du Kerouac haïkiste. Je voudrais que vous nous parliez de ce versant de votre travail. Un haïku, ça paraît simple comme bonjour, mais qu'en est-il en vérité quand il s'agit de le traduire?
Bah, c'est pas facile parce que il faut tenir compte du grand principe de brièveté. Donc ça, on doit garder cette notion-là à l'esprit constamment. Et puis ensuite, bien sûr, on a le choix d'essayer de retranscrire le nombre exact de syllabes du texte d'origine. Mais bon, quand on sait que chez Kerouac, finalement, il ne visait que la brièveté, et il disait lui-même que de toute façon, il ne voulait pas respecter la structure de 5, 7, 5 syllabes, parce que selon lui, l'anglais ne pouvait pas s'inscrire dans cette mouvance-là. Bon, il a eu ses détracteurs, hein, puis même en français ou dans d'autres langues, on sait très bien qu'on peut tout à fait écrire des haïkus avec 5, 7, 5. Mais enfin, lui, ce qu'il visait, c'était la brièveté. Donc j'aurais pu, effectivement, j'avais le choix entre soit respecter le nombre de syllabes de chacun de ces vers, qui encore une fois ne correspondait pas aux 5, 7, 5, soit viser la brièveté. J'ai préféré viser la brièveté, je pense.
C'est oui. Plus
simple. Puis vous savez, quand on est traducteur, il y a toujours le problème de... Bon, la traduction littérale, quand elle fonctionne, c'est parfait, mais elle fonctionne pas tout le temps, bien entendu, parce que chaque langue a son génie propre, et ce qui peut fonctionner dans un enchaînement de mots dans le texte de départ ne va pas foncièrement ou forcément ou nécessairement fonctionner dans la langue d'arrivée. Donc en fait, oui, j'ai été guidé par la brièveté, et la simplicité.
Ouais. Et puis le 5-7-5, donc je le dis à nos auditeurs, le haïku, donc c'est trois vers, le premier vers doit faire 5 syllabes, 7 le deuxième, 5 le troisième. En fait, au Japon, je crois qu'au cours du 20e siècle, notamment autour de la revue Sun, de Santoka, de Hosai, ce 5-7-5 a été largement remis en cause. Hein. On ne respecte pas forcément au Japon, hein, je crois. Hein.
Oui, bien sûr, absolument. Ouais. Oui, mais ça, c'est très important de le redire. Alors, ce qui est intéressant dans le 5-7-5, c'est que, selon la tradition japonaise, ça correspond très exactement au nombre de syllabes qu'un être humain peut prononcer en une seule expiration.
Ouais.
Donc il y a encore là aussi un côté spirituel évident. C'est, on peut trouver ça dans un japoniste très compétent qui s'appelle Alain Kervern.
Oui, sais pas si bien sûr, oui, tout à fait. Oui.
Je l'avais rencontré, on en avait discuté.
Oui. Alors, une dernière question, parce que le temps passe, mais le haïku, vous le dites, exige aussi beaucoup du lecteur. Il demande, dites-vous, une lecture créatrice. C'est vrai que moi qui propose souvent la lecture des haïkus à des amis poètes, eh ben souvent les poètes passent à côté, les poètes occidentaux, je veux dire. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'on puisse s'intéresser à un haïku, à aussi peu, finalement.
Ben, il faut faire œuvre de créativité simplement parce que à l'intérieur de chacun de ces mots, à l'intérieur de chacun de ces petits vers, on doit pouvoir imaginer au sens littéral du texte, on doit pouvoir se représenter ce vers quoi le poète veut nous mener. Et effectivement, je pense que peut-être encore plus de la part d'un lecteur occidental qui n'est pas initié à la culture japonaise, il faut effectivement faire cet effort vers quoi le poète tend. Et effectivement, pour des poètes occidentaux ou des lecteurs occidentaux, bien sûr, qui sont forgés à Victor Hugo, Baudelaire, tous ces grands poètes français, bien entendu, il y a une pléthore de mots, il y a une avalanche verbeuse, quelquefois, une avalanche du verbe, en tout cas, qui ne va pas du tout dans le sens de l'appréciation d'un poème aussi court. Hein. Même si on prend l'art du quatrain ou du tercet, qui a été pratiqué par nombreux de nos poètes, même ces tercets ou ces quatrains sont toujours très divers par rapport à la minceur et à la simplicité extrême du haïku.
Ouais. Bertrand Agostini, un grand merci. Je rappelle le titre de votre livre, passionnant, Jack Kerouac et le haïku, itinéraire dans l'errance, c'est publié aux éditions Delisière. Et puis je rappelle que vous avez fait ce travail très important de récollection de tous les haïkus de Jack Kerouac, tous les haïkus connus et publiés aux éditions La Table Ronde dans la collection La Petite Vermillon. Donc c'est un format poche, c'est pas cher du tout, ça s'appelle Le Livre des Haïkus et c'est une édition bilingue qui bénéficie également de votre introduction tout à fait passionnante.
Voilà. Et là il y a à peu près entre 400 et 500 haïkus.
C'est-à-dire
à peu près toute la production, mais le livre en fait a été est resté inachevé parce qu'il est mort avant de le terminer.
Ouais.
En tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir invité.
C'est moi qui vous remercie. Je vous rappelle donc Jack Kerouac et le haïku itinéraire dans l'errance, édition Delisière, et le livre des haïkus à la Table Ronde, collection La Petite Vermillon. Merci beaucoup. On passe un petit peu de musique et après, je vous lirai quelques haïkus de Jack Kerouac traduits par Bertrand Agostini. Désolé de couper la parole à Dizzy Gillespie qui nous jouait Our Delight, mais le moment est venu de vous lire quelques haïkus extraits donc du livre des haïkus édition bilingue publié à la Table Ronde, collection La Petite Vermillon, haïku traduit par Bertrand Agostini. Les haïkus que Kerouac avait sélectionnés pour publication se trouvaient dans un dossier noir portant le titre du livre des haïkus. La plupart proviennent de carnets qui commencent à l'année 1956. Aucune date n'est mentionnée relativement au contenu de ce dossier. Cependant, d'après ses journaux et ses lettres, il semblait bien que Kerouac avait l'intention de les publier dans The Sum of the Dharma. Il liste ses livres à venir, dont un livre des haïkus enregistré en 1959 avec Alcon et Zoot Sims. Alors voici donc quelques haïkus puisés dans ce livre. Dans le givre du matin, les chats ont avancé lentement. Dans le givre du matin, les chats ont avancé lentement. Pas de télégramme aujourd'hui, plus de feuilles à terre, c'est tout. Pas de télégramme aujourd'hui. Plus de feuilles à terre, c'est tout. À 75 km de New York, tout seul dans la nature, l'écureuil mange. À 75 km de New York, tout seul dans la nature, l'écureuil mange. Deux représentants de commerce se croisent sur une route de l'Ouest. Deux représentants de commerce se croisent sur une route de l'Ouest. Silos à grains attendant que la route s'approche d'eux. Silos à grains attendant que la route s'approche d'eux. Crépuscule, l'oiseau sur la clôture, un de mes contemporains. Crépuscule, l'oiseau sur la clôture, un de mes contemporains. Inutile, inutile, la pluie lourde s'enfonce dans la mer. Inutile, inutile. La pluie lourde s'enfonce dans la mer. Bon, j'émerge. 2 heures de l'après-midi. Quel jour sommes-nous ? Bon, j'émerge. 2 heures de l'après-midi. Quel jour sommes-nous ? Dans mon armoire à pharmacie, la mouche d'hiver est morte de vieillesse. Dans mon armoire à pharmacie, la mouche d'hiver est morte de vieillesse. Les fleurs jaunes du petit matin pensent aux ivrognes du Mexique. Les fleurs jaunes du petit matin pensent aux ivrognes du Mexique. De belles jeunes filles grimpent les marches de la bibliothèque en short. De belles jeunes filles grimpent les marches de la bibliothèque en short. Géronimo, en automne, dit non aux paisibles cochises. La fumée s'élève. Géronimo, en automne, dit non aux paisibles cochises. La fumée s'élève.
Ce soir de juillet, une grosse grenouille sur le pas de ma porte. Ce soir de juillet, une grosse grenouille sur le pas de ma porte. Puis voici le haïku que Kerouac préférait, le haïku de lui-même. Le chef Crazy Horse regarde le nord en pleurant. Première rafale de neige. Le chef Crazy Horse regarde le nord en pleurant. Première rafale de neige. Nuit d'été, le chaton joue avec le calendrier zen. Nuit d'été, le chaton joue avec le calendrier zen. J'essaie d'étudier des sutras, le chaton sur ma page réclame de l'affection. J'essaie d'étudier des sutras, le chaton sur ma page réclame de l'affection. Et ce dernier, en écoutant les oiseaux et leurs différentes voix, je perds ma perspective de l'histoire. En écoutant les oiseaux et leurs différentes voix, je perds ma perspective de l'histoire. Ah, puis tiens, allez, un tout petit dernier. On a du mal à s'arrêter. Le balai de l'ermite, le feu, la bouilloire, nuit d'août. Le balai de l'ermite, le feu, la bouilloire, nuit d'août. Voilà, donc il y en a bien plus, je suis plus de 400 donc haïkus à découvrir dans le livre des haïkus aux éditions La Table Ronde. Et puis surtout le dernier essai donc de Bertrand Agostini, Jack Kerouac et le haïku itinéraire dans l'errance, c'est aux éditions Delisière avec de très beaux dessins également. Voilà, on écoute un peu de musique à nouveau et puis la chronique de Jacques Morin.
I'm going home, going home. North Carolina's crying at my soul. Creator, I'm reaching out to you. Tell them on the other side that they are alive within my soul. Return the past that brought you by veins. Return the land and heal the pain. Begin to tell the world to prove where it comes from. I'm going home, going home. Your Carolina is crying in my soul. Creator, I'm reaching out to you. Sleeps under the Arabas, Garuda Nation, I was free. I hear Nigerian chains, they say, are buried real deep. Tobacco fields, trail of tears, stolen people on stolen land. I'm going home, going home, going home. Creator, I'm reaching.
C'était Going Home par la chanteuse amérindienne. Pour a fait, chose promise, chose due, Jacques Morin, directeur de publication de la revue Décharge, notre partenaire, vous offre sa revue des revues mensuelles.
Revue audio mensuelle numéro 52, Les hommes sans épaule numéro 46. On commence par la partie centrale. Bernard Reglisch. C'est Thomas Dumoulin qui a coordonné le dossier. Bernard Reglisch est né à Tunis en 1943 et mort à Paris en 1996. Père et nom d'origine croate. Sa mère s'occupe d'une librairie. Elle s'est remariée avec le poète Serge Wellens. Il ne publiera que 3 livres de son vivant chez Gallimard en 1977, 86 et 94 et sera malade de la sclérose en plaques. Le dossier est jalonné d'autoportraits et il est fait appel aux témoignages et analyses, entre autres, de poètes remarquables comme Max Allot, Bernard Lambercy, Lionel Ray et Franck Venaille. Je retiendrai son écriture élégante, confinant à la préciosité, une tendance progressive de son écriture vers la fantasmagorie et le passage d'une prosodie ample à la prose vers la fin de sa vie. C'est ce superbe équilibre des profondeurs que je cherche à atteindre à travers ma poésie. Il écrit par ailleurs « Le principal danger de l'écriture, c'est la vanité ». Et il dénonce aussi chez les auteurs le manque d'esprit critique. François de Boisseuil, qu'il a côtoyé et aidé à rédiger, parle dans ses poèmes de paroles mystérieuses où la fuite du sens avait libéré une puissance sourde ou éclatante qui le dominait et qui pouvait le mettre dans la même stupéfaction que le lecteur. Retour à l'éditorial signé Fernando Arrabal et cette anaphore de toute ma vie. Avec plus loin deux poèmes, Je te salue, démente et Requiem pour la mort de Dieu. Les HSE donnent des poèmes avec toujours des notes bio-bibliographiques remarquablement complète, l'on apprend beaucoup de choses sur les auteurs, ainsi sur Fernando Arrabal, mis à part un nombre considérable de rencontres importantes, la mort de son père sous la dictature franquiste quand il avait 10 ans, qui a marqué l'écrivain. Également Franck Etienne, énorme auteur qui écrit à la fois en français et en haïtien. Mon insomnie barbare dérange la liturgie des ténèbres. Éric Sénécal, créateur des éditions Clarisse. Attendre que la crosse de la fougère relève la nuque. Et Patricia Suescium, l'enfance idéalisée n'est que le reflet de la désespérance de l'adulte trahi. Retour au début avec deux belles parties consacrées à Herri de Luca, écrivain napolitain fortement impliqué politiquement, et Louis Mizone, poète chilien avec une vingtaine de pages de son écriture ciselée. Mon poème est un lit d'effet, bientôt il se retirera ses draps à la fenêtre, et le grand matelas familial prendra le soleil. Olivier Deschizeaux fait une critique littéraire d'un livre de Lionel Bourg, Arish Spielmann, Flamme lacunaire, Essart de vent, ou filet d'air que brasse une délication d'ailes blessées. Alain Brissiot, lorsque la nuit s'accouple au gris regret du soir, Philippe Bajolet donne des humeaux, mi-hommes, mi-animaux. Ensuite, Christophe Dauphin donne une étude sur le poète Abdulkader El-Janabi. Né en 1944 à Bagdad, en Irak, il s'exile à Londres en 1970, puis à Paris 2 ans plus tard, lieu à partir duquel il assiste à la suite d'événements sanglants dans son pays avec Saddam Hussein, puis Daesh. Il est au carrefour d'une pensée orientale qui tente à s'affranchir d'un obscurantisme religieux et du surréalisme qu'il a découvert en Europe. Enfin, le même Christophe Dauphin fait le point à travers un livre de l'écrivain William Souny de la situation extrêmement délicate de Mayotte, où misère et problèmes migratoires forment le quotidien. Peuple d'oiseaux cloués par les ailes à la muraille des lagons. Je passe toute la partie info, écho, critique, édition, un scoop cependant, Jacques Aramburu est un pseudo d'Alain Breton. Pour clore, deux hommages, hors pagination, en tête du volume, Georges-Emmanuel Clancier, 1914-2018, auteur du Pain Noir, la poésie est la tentative et la possibilité d'approche musicale au plus près de la totalité de l'être humain. Également, le poème est négation du temps, exaltation de l'instant rendu immobile et illimité. Et Oksana Chachko, suicidée à 31 ans, fémène, et peintre d'icônes complètement réinventées. Les HSE lui avaient consacré une partie dans leur numéro 44. Les Hommes sans épaules demeure une revue foisonnante, documentée, riche et rayonnante, ouverte aussi bien à la poésie française qu'à la poésie internationale. 17 euros pour 300 pages, 8 rue Charles Moiroux, 95 440 Écouen. À la prochaine fois.
À dans 4 semaines, très précisément, cher Jacques Morin. Le numéro 180 de la revue des charges est donc disponible. Je l'ai parcouru dans tous les sens et ma foi, il est d'une richesse tout à fait extraordinaire, comme tous les trois mois. Vous y découvrirez des textes de Jean-Pierre Siméon, Myriam Heck, Christian Degout, Anne-Lise Simao, Yannick Torlini, Patrick Argenté et Éric Van Neff, que je vous lirai dans 15 jours. Et puis, les poèmes de François de Cornière, comme tous les trois mois. Et un inédit de Michel Merlin, qui nous a quittés il y a quelques mois. Je voudrais vous lire le poème que vous pourrez découvrir dans Décharge numéro 180. Ce poème s'intitule « Naître ». C'est un dimanche, à l'heure où les concierges reviennent vers leur loge avec leurs chiens. Le ciel est propre, au but chaumont, les pelouses sont encore fraîches. Elle a son sac, il porte une mallette. Boulevard de Ménilmontant, un coiffeur est déjà devant sa porte. À l'étalage d'une épicerie arabe, fruits et légumes reflètent le soleil. À la maternité des Bluets, travaux, ils sont montés par l'entrée provisoire jusqu'au quatrième. Il est entré avec elle dans la salle de travail. Elle s'est déshabillée, s'est allongée, a passé un t-shirt qui couvre à peine ses seins. Toutes les 5 minutes, contraction qui la bouleverse. Elle inspire, expire comme elle l'a appris. Il pose une main sur son front, de l'autre, il masse son ventre en douleur. À la fenêtre d'un immeuble voisin, un homme en pyjama prend le pouls de la journée. Elle est couchée sur le côté maintenant pour que l'enfant descende plus vite. Respiration haletante, puis longue expiration. 3 heures ont passé, les musiques des jukebox montent. Des petites filles jouent dans le square, les jambes en l'air, les pieds bien calés, les mains accrochées au bar. Elle pousse dans le monde son enfant. 15h45, Julie a jailli, bleu-rouge, comme le sang, comme la vie. Il l'a prise dans ses mains. Avec la crainte imbécile qu'elle glisse, il l'a posée, pleine d'humeur, sur la gorge de sa mère, comme si cela suffisait pour être un homme. Il a coupé le cordon ombilical, en espérant comprendre le sens, tous les sens, du mot « père ». Voilà, « Naître », poème inédit de Michel Merlin. Et puis, les pages volantes de notre ami François de Cornière. Attraper ce qui fuit. Ombre et soleil, soleil et ombre. Ombre et soleil, un vrai défilé de nuages blancs depuis ce matin. J'ai noté ça pour un poème, et le grand chêne d'à côté, les lignes droites des avions, les hirondelles en vol plané. Et j'ai pensé que j'étais là, allongé sur l'herbe très verte, après le déjeuner, toujours vivant, toujours vivant, j'ai eu envie de je ne sais quoi, sauf fermer les yeux, me rappeler cette phrase, autrefois de passage entre nous, attraper ce qui fuit. Je me souviens, nous regardions le va-et-vient des mésanges bleus qui chaque année, comme aujourd'hui, dans leur petit nichoir, toujours intact, si tu savais, recommence tout. Vibrer comme ça. À l'heure du café hier, j'avais ouvert en grand la porte-fenêtre de la salle. Le soleil était assez bas pour toucher presque les étagères du fond de la pièce. J'avais coupé le chauffage et je m'étais installé à la limite du dedans et du dehors, dans un fauteuil avec à côté un tabouret, un livre, un petit plateau et mon café posé dessus. Je pensais aux poussières de ma vie qui tremblotaient dans le contre-jour. Le ciel était bleu, sans nuages. Un pigeon avait fait claquer ses ailes. Il était passé en planant. C'était tout. Je n'avais aucune raison d'écrire ce poème du 20 février 2018. mais j'écoutais Solitude par John Coltrane, Donald Byrd, Red Garland, Jamil Nasser et Art Taylor, enregistré le 13 décembre 1957 à Hackensack dans le New Jersey. J'avais vérifié sur la pochette. Je me sentais bien à ce moment-là, parce que je pouvais croire, 61 ans après, que le temps pouvait continuer encore de vibrer comme ça, sans jamais s'arrêter. Voilà, vous retrouverez ces deux poèmes et quelques autres de François de Cornières dans le numéro 180 de la revue trimestrielle de poésie des charges, notre partenaire. Et puis n'oubliez pas, dans 15 jours, je vous lirai des poèmes de Patrick Argenté et Éric Van Neff qui figurent eux aussi dans ce numéro 180. La chronique de notre ami Louis Dubeau, tout à fait cessante.
La poésie et la morue salée sont inconciliables. J'ai glané cet insolite aphorisme dans l'œuvre d'un poète et écrivain islandais, John Kalman Stefansson, auteur d'une trilogie disponible en traduction française aux éditions Gallimard. Trois titres, Entre ciel et terre, La tristesse des anges et Le cœur de l'homme. Saga bouleversante dans une langue poétique dérangeante. Sans tenir au résumé, comme dans une quatrième de couverture, à la lente et violente maturation d'un gamin vers l'âge adulte à travers les expériences brutales du quotidien, ne laisserait paraître que le mince et trompeur glacis de la partie émergée de l'iceberg. Alors que le corps tout entier de l'œuvre, immense et dense, se rapporte à la poésie, à son dangereux pouvoir de réveiller la conscience et de menacer le quotidien. Ici, la poésie s'implique dans le corps vivant organique, désorganise les idées reçues et jette le doute sur les certitudes intelligibles. La poésie pose sa nécessité comme un élément vital, un aliment indispensable à la survie de tous les jours. En effet, la poésie n'est pas décorum bonas ni benoît de contemplation. Elle est un personnage à part entière qui intervient dans le récit et détermine la destinée des choses et des êtres. C'est bien à cause de la poésie que l'ami du gamin, pêcheur de morue, trempé et congelé vif, trouve la mort, parce que tout occupé et possédé par sa lecture, un livre qu'on lui a prêté du poète anglais Milton, il a oublié de revêtir sa vareuse avant d'embarquer. Ce même livre entraîne le gamin, fidèle à la promesse faite à son ami de le rendre à son propriétaire, dans les souffrances d'un road movie, sauf qu'il n'y a pas de route et que ce n'est pas du cinéma, terrible et hallucinant, à travers la neige, le blizzard glaçant, l'hiver arctique, comme une plongée perdue dans l'enfer météorologique impitoyable qu'évoque un autre écrivain islandais, Arnaldur Indridason. Et tout ça pour un livre de poèmes. C'est encore la poésie que le gamin rencontre au cours d'une brève halte dans une petite ferme perdue dans l'immensité blanche, lorsque Maria, la fermière qui possède une douzaine de livres qu'elle lit et relit, lui confie un peu de monnaie et lui demande de lui apporter, lors de son retour, je cite, « un livre dont les mots ne restent pas immobiles sur la page, mais qui s'envole et nous donne des ailes, même s'il nous manque l'air pour voler ». Quelle humble et superbe approche de la poésie qui ne l'enferme pas dans la cage d'une définition savante. Des mots qui donnent des ailes, même si nous manquons d'air pour voler. Quoi de plus simple, de plus juste, de plus évident. Remarquable donc l'attitude de la fermière, archétype du lecteur exigeant, qui éclaire d'une lucidité aiguë le rapport de l'auteur et du lecteur. Dans un entretien, Le Monde du 25 mai 2013, John Kalman Stefansson insiste sur le fait que l'écriture, tentative pour saisir l'innommable, pour l'arracher à des profondeurs abyssales qui dépassent notre entendement, est, en soi, toujours condamnée à l'échec. La littérature n'apparaît que dans la rencontre, l'alliage de l'écriture et d'un lecteur, accompagné de ses souvenirs, de son expérience, de sa douleur et de sa joie. Il précise pour conclure, le rôle du poète s'achève au moment où il publie le livre, au moment où il décide qu'il a achevé son travail d'écriture. C'est par l'union d'un auteur en recherche et d'un lecteur en quête que que naît une littérature à même de saisir toute la vie, voire un peu plus encore, une littérature apte à créer une vie nouvelle. La conclusion du poète islandais rencontre un écho qui ne surprend guère chez le poète français Yves Bonnefoy, qui, intervenant en public lors de la Foire internationale du livre de Guadalajara, recommandait à ses lecteurs mexicains « N'essayez pas de trouver au mot que j'emploie un sens. Les poèmes ne signifient pas. Il vous faut projeter dans chacun des mots votre expérience personnelle. Il deviendra votre poème, votre guide sur votre chemin. Faites confiance aux textes poétiques en donnant aux mots que ces poèmes emploient des significations que vous savez retrouver en vous. La poésie n'est jamais un support complaisant à l'existence. Elle est d'emblée un plaisir insupportable. On dépasse une banale empathie sensible pour créer une coexistence métaphysique. On s'engage à la transcendance. On m'a donné des ailes, mais où donc est l'air pour voler ? Tout ça pour rappeler, en d'autres termes, que lire de la poésie amène simplement à comprendre quelque chose de la vie, tout simplement. On peut se procurer dans toutes les librairies les trois livres de John Kalman Stephenson parus chez Gallimard, « Entre ciel et terre, la tristesse des anges et le cœur de l'homme ».
C'était la chronique mensuelle de Louis Dubeau, poète, ancien éditeur à l'enseigne du Des Bleus et chroniqueur régulièrement dans la revue Des Charges. Il me reste à vous quitter, à vous dire mon amitié, à vous donner rendez-vous dans 15 jours pour la prochaine édition de La Route Inconnue. Pour terminer, quelques poèmes lus par Jean-Claude Touzaï.
Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous lire deux, trois poèmes de Louis Aragon qui figurent sur notre programme au Chemin des Poètes en avril. Mais évidemment, vous connaissez les poèmes classiques que chantent Ferrat, Ferré ou Marc Augeret. Donc là, je vous renvoie à vos radios ou vos CD. J'ai trouver des poèmes d'Aragon de sa période surréaliste, disons. Donc beaucoup moins connu. Acrobate. Bras en sang, gai, comme les saints foins, l'hyperbole retombe. Les mains. Les oiseaux sont des nombres, l'algèbre est dans les arbres. C'est Rousseau qui peignit sur la portée du ciel cette musique à vocalise, 100 à 100 pour la vie, qui tatoue, je fais la roue sur les remparts. Louis Aragon, extrait de Feu de joie. Deuxième poème, le délire du fantassin. L'enfant fantôme de l'homme entre les piliers de pierre. Deux pierres, son tour de tête. La tour monte, attention au ciel. Comme il mue avec sa voix de rogome, il effraie à tort ou raison leurs frais empaillés. Qu'on ne voit pas à cause de la chaleur, à cause de la couleur, à cause de la douleur. Jamais la boule en buis ne pourra retomber sur le bout de bois blanc du bilboquet. Cet extrait du même Feu de joie. Troisième poème, intitulé Pierrette. La dame au caraco, bordée de caracules, s'élève énergiquement contre l'abus des violettes. Elle court dans l'enceinte. Elle n'est pas enceinte. Est-ce une revendeuse à la toilette ou une toilette à revendre ? Toujours est-il que par un matin de printemps, on ne peut rien rêver de plus modeste et de plus moderne à la fois que la chaste réserve de ses regards. Et le petit bijou vraiment délicieux qui pend à son cou quand elle l'y accroche. Si ce n'est la charmante rougeur de son nez artistiquement tiré en couleur. C'est extrait du mouvement perpétuel. Voilà. Et puis, comme d'habitude, je vais vous lire un de mes poèmes. Celui-là est extrait de « Cela dit », qui était paru à l'atelier de Coutel il y a déjà un moment. Le titre mérite une explication, c'est intitulé « Viette ». Une viette, c'est du normand. Ça veut dire tout simplement une allée dans le jardin. Après la route des haricots beurre, celle qui monte à peine, tu verras sur ta droite le mur des Arroches. Tu traverses l'allée principale, gaffe au passage des mulots. Tu contournes le rond-point des lentilles blondes. Tu vas tout droit vers les roses trémières. Et tu tombes forcément sur la venelle des patates bleues. C'est un cul-de-sac. Tu trouveras le griot sous le bananier. Voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à l'année prochaine.
Les filles de l'aurore, je peux encore les retrouver. Elles ont autour du corps de l'amour et de l'or que l'on peut jouer au dé. Elles ont au fond des yeux des rêves que l'on ignore. Quand vous dormez encore, quand l'aube les voit passer par deux, et moi je viens bien après l'aura, quand le soleil monte à Saint-Jean, voudrais me dire que je t'aime encore, toi qui t'en vas tout le temps. Les garçons de l'aurore glissent leur corps dans des jeans usés. Ils passent des doigts nerveux dans leurs cheveux et s'en vont au dehors. Ils ont see you.